Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct et en public du Festival des Jeux de Cannes, un marché du jeu en plein essor. La crise sanitaire a même eu un effet bénéfique sur ce secteur. L'an dernier, 30 millions de boîtes de jeux vendues dans notre pays. Avec nos invités, nous verrons quelles sont les tendances du moment, coup de projecteur notamment sur les jeux narratifs. Alors que 1500 jeux sortent chaque année dans le monde, nous vous aiderons à y voir plus clair. Nous vous conseillerons les meilleurs pour jouer en famille ou entre amis. Bonjour Grégory Cohen.
Bonjour Ali Rebéi.
Notre chef qui ne triche pas en cuisine, quel est le menu de votre recette à partager ce week-end?
Eh bien écoutez, vu qu'on est dans le sud, j'ai décidé de faire une tartiflette et je trouve que c'est de saison. Non, je vais faire une pisse saladière évidemment.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Vous nous proposez ce matin une petite philosophie de la triche.
Bah oui, puisqu'on est au Festival des Jeux et que derrière chaque joueur, il y a peut-être un tricheur qui sommeille.
Bonjour Guillaume Todicino.
Bonjour Ali.
Dans votre chronique L'Ami du Vendredi, un nouveau camarade de fiction qui aime jouer au chat et à la souris.
Oui, absolument. C'est un lieutenant. Déjà, c'est un gros indice et il gagne à chaque fois.
Pas d'inquiétude, vous retrouverez la chronique de notre chère Maya Mazorette la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous dire les jeux qui vous passionnent sur l'appli France Inter ou sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Dans un contexte international anxiogène et très tendu, un peu d'air frais parce que la vie continue. Bienvenue dans Grand Main Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rebéi, Grand Bien Vous Fasse.
Comment c'est activé ?
C'est quasiment une habitude quotidienne. Autour de la table, toute la famille s'est réunie pour jouer ensemble. Aujourd'hui, c'est Uno, le célèbre jeu de cartes et de stratégie. Un peu plus de réflexion avec le jeu de plateau Harry Potter. Le confinement peut avoir du bon.
Et justement, le confinement, c'est bien parce qu'on a plus de temps pour jouer.
Des jeux sortis des placards, mais pour beaucoup de familles, c'est l'occasion de s'équiper. Les ventes ont explosé. La première semaine du confinement, plus 83% par rapport à l'année dernière. Le top 10 des jouets est entièrement trusté par les jeux de société ou les puzzles, une grande première.
Extrait du JT d'M6 en 2021. Bonjour Cynthia Rebeyrac.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir à nouveau. On était venu il y a 2 ans ici à Cannes. Vous êtes la commissaire générale du Festival international des jeux de Cannes. Et vous nous annoncerez tout à l'heure l'As d'or du meilleur jeu. Hein. C'est l'équivalent de la Palme d'or hein, pour le cinéma.
Voire des Césars, si je dois faire un clin d'œil pour l'actualité de ce soir.
Bonjour Martin Wittberg.
Bonjour.
Vous êtes conseiller du festival, dessinateur, scénariste. Et vous avez créé une chaîne YouTube qui s'appelle Un monde de jeux.
Oui, c'est ça. Effectivement, je suis dessinateur, donc j'aime beaucoup dessiner.
Monsieur Patate.
Effectivement, vous connaissez peut-être les petits personnages. On traite de l'actualité, notamment, et il y a matière à faire en ce moment.
Bonjour Mathieu Rivero.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef du site Ludovox, c'est ça? C'est quoi Ludovox en quelques mots?
Alors Ludovox, c'est un site d'actualité, de news et de critiques sur le monde du jeu de société. On a aussi une chaîne YouTube où on présente des jeux.
Bonjour Pierre-André Joly, alias Maxildan. Bienvenue.
Bonjour,
vous
enchanté.
Êtes animateur sur lestream.fr, une chaîne ouais. Twitch qui diffuse des émissions consacrées aux jeux vidéo et aux jeux de société, c'est ça?
C'est ça, on parle de tout, musique, actualité, réseaux sociaux, cinéma, c'est très très large et aussi de jeux de société, c'est vrai.
Cynthia Rebeyrac, alors le secteur du jeu continue à très très bien se porter et la crise sanitaire, on l'a entendu, n'a pas freiné cet incroyable engouement, hein.
Elle ne l'a pas freiné, et bien au contraire, elle a accéléré. Nous nous sommes rendus compte que, donc, bien confiné, il fallait s'occuper. Donc, une fois qu'on avait fait le tour des séries et d'être seul chacun de son côté avec un écran, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, deux types de personnes sont ressorties. Donc, on avait bien sûr les joueurs qui, eux, eh bien, avaient beaucoup de jeux chez eux et on en profitait pour continuer à partager. Et puis, des personnes qui ne l'étaient pas forcément et qui pouvaient avoir, soit pour les plus classiques, un Monopoly, un Uno à la maison. Et cela leur a permis de redécouvrir le plaisir de jouer. Et puis à l'époque, il faut pas oublier que pendant le premier confinement, toutes les boutiques étaient fermées. Et uniquement au tout début, on avait la possibilité d'acheter des jeux en grande surface. Donc aujourd'hui, on salue le fait que ces jeux, qu'aujourd'hui on va pas forcément retrouver à Cannes, puisque la créativité ludique est telle que oui, le Monopoly existe, oui, le Super Cluedo, mais il y a tellement de richesses qu'il est important de le faire découvrir au plus grand nombre. Mais ces jeux d'antan, entre guillemets, ont permis de dépoussiérer les joueurs qui étaient en nous et de mettre le pied à l'étrier, notamment pour les nouveaux joueurs.
Mathieu Rivero, sur cet incroyable engouement du jeu dans notre pays ces 2-3 dernières années.
Alors, il y a déjà eu effectivement un renouveau du jeu pendant le confinement, parce qu'effectivement, comme le disait Cynthia, eh bien, on a eu du temps, mais en même temps, les boutiques étaient fermées. Donc les boutiques ont eu très peur et la crise a créé des problèmes, notamment des problèmes d'approvisionnement. Ça n'a pas empêché effectivement un essor du jeu et notamment par des moyens différents. Par exemple, le jeu en distanciel où on joue chez soi mais avec d'autres gens. Donc on joue sur Skype, par exemple, un jeu de société, c'est possible. Ou alors des jeux solo aussi. Le solo, c'est une tendance du jeu de société. Il y en a de plus en plus. Comme on jouerait à un jeu vidéo en solo.
C'est antinomique, jeu en solo, jeu en société.
Alors effectivement, après, on parle de board game, par exemple, en anglais, plutôt que donc de jeu de plateau, plutôt que de jeu de société. Mais en français, on a ce terme usuel qui est parfois impropre.
Martin Winberg, votre regard sur cet incroyable succès du jeu en ce moment ?
Ça souligne surtout une tendance qui était à la hausse depuis très très longtemps, parce que le jeu de société progresse chaque année, avec des chiffres qui sont en général au-dessus de 10%. Mais là, effectivement, il y a eu une accélération. Mais tous les loisirs, même le cinéma, la littérature, ont été impactés par la crise. Dans le jeu de société, on a cet impact qui a joué, qui est un accélérateur d'une tendance longue.
Maxime Dame.
Oui, effectivement, moi je le vois notamment via mon prisme de joueur de jeux vidéo à la base. Il y a vraiment ce plaisir de se retrouver autour d'une table qu'on a peut-être perdu parce que peut-être les plus jeunes d'entre nous se sont mis de plus en plus au jeu en ligne. Et finalement, il y a un peu ce retour au contact. On le dit depuis longtemps, mais c'est toujours vrai et ça s'accélère effectivement.
Guillemette.
Je me demandais aussi si les gamers, ceux qui étaient il y a quelques années sur des consoles tout seuls, ils seraient pas devenus parents entre-temps aussi. C'est-à-dire qu'ils ils peuvent maintenant sortir les plateaux de jeu à l'ancienne pour jouer avec leurs enfants. Ils sont plus juste des types seuls sur des canapés.
Oui, alors des jeux à l'ancienne ou des jeux plus modernes.
Oui, plus modernes.
C'est vrai, mais l'un n'empêche pas l'autre. Les deux sont complémentaires. On peut tout à fait être un gros joueur de jeux de société ou même un débutant et jouer beaucoup aussi aux jeux vidéo. Les deux sont pas du tout ennemis.
Oui.
Ça se complète complètement. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeux de société qui ont leur version numérique et vous pouvez aussi y jouer en ligne.
Grégory Cohen.
Alors moi j'ai démarré effectivement Guillemette avec des jeux en réseau locaux ou alors des jeux en réseau en ligne et c'est vrai que maintenant que je suis papa on joue avec les enfants c'est génial parce qu'on voit l'éveil que le jeu va faire les progrès qu'ils vont faire d'une partie à une autre, comment est-ce qu'ils vont s'intéresser, comment ils vont commencer à faire travailler leur méninge, c'est vraiment génial et effectivement il y a un passage du online solo au jeu en famille, on va dire.
Cynthia Ruberac.
Je tenais aussi à souligner que les joueurs de jeux vidéo dans les années 80, finalement, aujourd'hui sont complètement déculpabilisés à l'idée de jouer. C'est-à-dire que c'était une habitude et puis il n'y a absolument aucun problème à finalement passer du jeu vidéo au jeu de plateau.
Qui joue au jeu de plateau ? Quel est le profil type, Cynthia Ruberac ?
Alors le profil type, c'est une question qui est de plus en plus compliquée puisqu'aujourd'hui on se rend compte que tout le monde joue. Donc, si on part du principe qu'on va définir un profil type sur le Festival des Jeux, il y a quasiment autant d'hommes que de femmes, beaucoup d'adultes, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Donc aujourd'hui, on a plaisir à dire qu'il y a un jeu pour chacun d'entre nous, donc il n'y a pas forcément de profil type.
Tiens, Mathieu Rivero, racontez-nous votre plaisir de jouer. Comment c'est né et comment ça a perduré à l'âge adulte ?
Alors ça a commencé enfant avec les parents bien sûr, mais après avec les amis aussi, on invente des mondes ensemble, donc on joue à des jeux de rôle, à des jeux de société, on crée des petites choses, des petites variantes, et puis en fait c'est resté. J'ai joué à beaucoup de choses, des jeux vidéo aussi.
Quel est le plaisir ?
Mais le plaisir pour moi c'est d'explorer des possibilités, des mondes. Alors il y a des profils de joueurs différents, il y en a qui vont chercher à optimiser, il y en a qui vont chercher à tout compléter. Moi c'est vraiment l'exploration des possibles, des mondes, de la narration. Et ce qui m'intéresse dans le jeu c'est de me trouver ailleurs, d'être transporté par le jeu.
Et vous Martin Winberg ?
Faut insister sur le fait qu'il y a quand même des joueurs qui sont très différents parce qu'on a pas mal parlé du jeu vidéo. Moi j'en faisais pas forcément beaucoup du jeu vidéo. Je suis vraiment concentré sur le plaisir de partager des moments avec d'autres personnes autour de la table. C'est ça que j'adore, c'est découvrir des personnes, échanger avec eux. On parle beaucoup du jeu brise-glace. Le jeu qui nous permet de découvrir des gens que l'on connaît pas et qui est pratiqué en entreprise notamment.
Racontez-le.
Par exemple, on connaît pas du tout des gens, on vient de rentrer dans une entreprise et on nous propose comme activité d'échange et de connaissance de jouer à un jeu de société qui va nous obliger à parler, à échanger. Oui, le terme brise-glace, c'est un générique, c'est pas un jeu en particulier, il y en a plein qui rentrent dans cette catégorie-là. Et ça nous permet effectivement de découvrir les gens. Et cet aspect-là du jeu de société, l'aspect société dont on parle sur le terme français, il est hyper important et il touche beaucoup de joueurs.
Maxime Dan, sur votre plaisir de jouer.
C'est arrivé assez tard finalement, puisque j'étais plutôt jeu vidéo effectivement pendant très longtemps, et puis j'ai découvert un jeu qui s'appelle Abyss que j'ai vraiment adoré, et ça m'a mis le pied à l'étrier. C'est notamment les illustrations par exemple qui m'ont beaucoup parlé. C'est par ça que je suis entré dans le jeu de société, et d'ailleurs je trouve que les jeux font de plus en plus d'efforts pour être magnifiquement illustrés, et il faut le saluer. Et puis après tu commences avec un, tu enchaînes avec un deuxième et tu commences à tomber dedans. Tu sais, c'est un peu comme les tatouages. Tu t'en fais un et après t'en veux partout.
Cynthia Rebérac, commissaire générale du Festival des Jeux. Comment est né ce plaisir de jouer?
Alors, bon, moi, petite, en famille, bien évidemment. Et puis après, ça a commencé un petit peu plus tard. Moi, c'est Dixit qui a été réellement la révélation. C'est, je trouve, l'un des plus beaux jeux au niveau des illustrations.
Racontez-le, ce jeu.
Eh bien, Dixit, vous avez des cartes qui sont simplement parfaitement illustrées. Et l'objectif est de faire découvrir le thème qui va rassembler le maximum de cartes en donnant assez d'indices pour que ça puisse être trouvé, mais sans en donner trop, parce que si tout le monde trouve, vous avez perdu. Et puis aussi la chance, bien sûr, de travailler sur le Festival des Jeux où on peut avoir accès à tous les jeux, et ça, c'est magnifique.
Grégory Cohen, grand joueur devant l'éternel.
Moi, j'ai commencé avec une bande de copains. On a joué à Donjons et Dragons.
Ah oui.
Donc, c'est un jeu de rôle. Mon personnage s'appelait Zach Sironwolf. C'était un
elfe. Heureux de l'apprendre.
Un elfe biclassé. C'était génial parce qu'il y avait aussi.
J'y comprends rien, là.
Bon, c'était un elfe qui avait deux métiers. Il était voleur et un peu guerrier et un peu magicien.
Ah bah, dans les jeux de rôle, on a toujours deux identités à chaque fois. C'est ça qui
est bien. C'est clair. Après, j'en ai eu un autre qui s'appelait Jack Decker, c'était la guerre des sorciers, donc on a fait plein de choses. C'est exceptionnel parce qu'on partage avec ses amis et on fait fonctionner son imaginaire, et puis on se retrouve, on a eu le temps d'y penser, de repenser à une stratégie, d'avancer. C'est assez génial, et effectivement après il y a un deuxième jeu, un troisième jeu, et puis on est pris dans la spirale.
Guillemette.
Oh oui, mais alors, les jeux de rôle, évidemment, mon Dieu, toute notre jeunesse, Grégory. Mais je reprends aussi ce que disait Grégory pour l'évolution, enfin des enfants, etc. Il y a aussi de plus en plus de jeux. Enfin, j'ai l'impression, par rapport à ma propre enfance, des jeux humoristiques, des jeux qui reposent sur des jeux de mots, qui reposent sur des comme ça, sur des gags et tout. Et ça, de jouer avec ses enfants à ça, c'est vraiment merveilleux quand ils commencent à choper. En fait, il chope le truc du jeu. Par exemple, il y a un jeu, moi, que j'adore, qui s'appelle Contrario, qui repose uniquement sur l'inversion d'expressions très connues. Si je vous dis éteindre l'eau, il faut
allumer le feu.
Allumer le feu. Ça, c'est vraiment la base. Mais il y a des trucs, par exemple, mon très moche mélèze, c'est mon beau sapin. Vous voyez, bon, ça. Et il y a des jeux de mots absolument fabuleux. Et quand les gosses comprennent, mais c'est un pied, pas possible.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, il y a une dimension relationnelle, intergénérationnelle. C'est-à-dire que, par exemple, mais je pense que c'est très largement partagé. Moi, mes souvenirs de jeux d'enfance, c'est avec mes grands-mères. C'est les après-midi à la campagne. Et en fait, c'est les jeux de cartes. Jeux de cartes. Moi, je suis vraiment entré dans les jeux de cartes.
Les grands-mères, c'est le rami.
Exactement, le rami, les cartés. Le barbu, la crapette, enfin voilà. Et en fait, il y a quelque chose qui est très simple, c'est que, sur le jeu de cartes, parce qu'on n'a pas évoqué le jeu de cartes, mais je sais pas si c'est vraiment un jeu de société ou pas, mais c'est un jeu qui permet de faire aussi une sorte de société singulière avec les personnes avec lesquelles on joue pendant un petit temps. Et pour les enfants, c'est formidable parce que ils se rendent compte qu'avec les mêmes petits ustensiles de carton, on peut imaginer plein d'histoires différentes, parce que les jeux, c'est des histoires. Ça, c'est un plaisir qu'il y a à se projeter dans cet imaginaire-là, et puis à partager un moment avec des grands-parents qui parfois sont un peu effrayants ou un peu éloignés, etc. Ça rapproche terriblement.
Thibaut parlait d'histoire. On assiste en ce moment à un engouement pour les jeux narratifs, c'est ça? Quel est le principe de ce type de jeu, Mathieu Rivero?
Alors, c'est tout simplement de jouer en déroulant une histoire ensemble. Par exemple, dans l'As d'Or de l'an dernier, Micro Macro Crime City, on a une carte immense qui est déployée devant nos yeux, et on va simplement essayer de résoudre des enquêtes en regardant ce qui se trouve sur la carte, des personnages qui sont dessinés sur cette carte, et on les voit à plusieurs points dans le temps. Donc c'est un peu un « Où est Charlie ?», mais on va suivre des enquêtes, on va essayer de les résoudre, de déduire, d'essayer de trouver des parcours logiques.
Cynthia Rebérac.
Et la tendance encore plus aujourd'hui dans les jeux narratifs, c'est le fait de vouloir l'apporter à l'enfant, puisque par exemple hier soir donc nous avons remis les As d'Or et Bubble Stories qui est l'As d'Or enfant. Eh bien c'est un jeu narratif, un petit jeu d'enquête mais qui est vraiment spectaculaire. Et là l'objectif encore plus aujourd'hui des éditeurs, c'est de faire un jeu pour l'enfant mais également pour les parents puisque l'objectif est d'être en famille. Et on va voir que les jeux narratifs, les jeux d'enquête, les jeux d'escape aujourd'hui vont encore plus vers l'enfant.
Rappelez ce jeu qui a remporté l'As d'Or enfant.
L'As d'Or enfant, c'est un jeu qui s'appelle Bubble Stories et qui est édité par Blue Orange.
Et quel est le principe? Alors c'est Martin Wittberg.
Bubble Story, c'est un jeu dans lequel il y a des petites cartes qu'on va poser sur la table. C'est un tout petit jeu, il coûte pas très cher. Il est vraiment accessible à tout le monde. C'est pour les enfants les plus jeunes. Il n'y a pas du tout de texte. Et on a des bulles avec différents lieux. L'enfant va choisir à la manière d'un livre dont vous êtes le héros de se diriger plutôt vers un endroit ou un autre pour résoudre une petite enquête très simple. Et c'est accessible, ça met de la nouveauté pour les enfants aussi. J'insiste beaucoup pour les parents qui nous écouteraient d'aller dans les boutiques de jeux et de poser la question de quels sont les jeux modernes qu'ils pourraient faire jouer à leurs enfants. Ils vont avoir des conseils qui sont très très ciblés et ils vont découvrir tout un univers.
En tout cas, vous nous avez conseillé donc Bubble Story. Guillemette.
Oui, mais j'ai l'impression qu'en fait, ce qui est très bien pour les jeux pour enfants, c'est que ça c'est comme le cinéma d'animation. C'est-à-dire, comme Pixar a eu l'idée de le faire et tout, c'est-à-dire, maintenant, les jeux pour enfants ne sont pas ennuyeux pour les parents. Y a un vrai plaisir aussi des adultes à jouer à niveau d'enfant.
Ah oui, non seulement c'est pas ennuyeux, mais en plus on a une évolution qui est très très forte ces dernières années, un peu comme l'album jeunesse. C'est vrai que maintenant on a des albums jeunesse qui sont formidables. On se plonge dedans, on a autant de plaisir nous adultes à jouer que les enfants. C'était pas forcément toujours le cas des jeux d'il y a quelques années.
Exactement. 10h23, il est l'heure de retrouver l'ami du vendredi de Guillemette Odissino.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Guillemette Odissino, quel personnage mérite notre amitié cette semaine?
Alors, chère Ali, chères auditrices, chers auditeurs et chers publics du Festival International des Jeux de Cannes, êtes-vous beau joueur? Reconnaissez que dans un jeu, il y a deux chances de bonheur. L'emporter soi-même, évidemment, ou admirer sincèrement la victoire de l'autre. Bon, bah lui, il savait la date exacte de la naissance de Churchill. Bah, elle avait gardé un dernier atout, et pas vous. Et bravo, il est toujours plus rapide que vous pour appuyer sur le buzzer. Alors c'est pour cela que je voudrais vous présenter un vieil ami qui gagne à tous les coups, et c'est justement pour cela qu'on l'aime depuis 50 ans. Ce cher lieutenant Colombo, eh oui, héros d'une série aussi mythique que confortable. Car c'est une série, pas un feuilleton. On peut en regarder un épisode au hasard. Allez, on se fait un petit Colombo. Comme on dirait, allez, juste une petite partie de Uno. C'est aussi un Cluedo, évidemment, Colombo, mais un Cluedo à l'envers. Puisqu'il s'agit, on le sait, d'une énigme inversée. Le coupable, on le voit à l'œuvre dès le début. Mais comment ce cher lieutenant va-t-il le piéger? Alors à chaque épisode, il y a des accessoires de jeu identiques, c'est comme un plateau, à chaque fois le même. Des acteurs prestigieux pour affronter le merveilleux Peter Falk, mais aussi, évidemment, la même Peugeot Cabriolet 403, le même chien impotent au point que le lieutenant doit le porter, le même impair mou et béjasse, le même bout de cigare mâchouillé qui s'éteint tout le temps, et la même Madame Colombo. Comme dirait ma femme, Madame Colombo qu'on voit jamais.
Vous le faites bien. Il ne paye pas de mine, votre ami Colombo.
Alors ça, on peut le dire. Il est en apparence si ordinaire, mais le voilà plongé à chaque fois dans la cour des grands. Il affronte la classe dominante, des riches arrogants, condescendants, qui en gros ont tout compris du Monopoly. Alors dans ce jeu de rôle et de dupe, il se fait passer pour le naïf, un peu bêta, incapable de gagner à la bataille. Et pourtant, c'est un génie des échecs. Alors que l'assassin avance ses pions, Colombo sait depuis la première minute comment il va contrer, parce qu'il a une vue globale de l'échiquier. Enfin, à moins qu'il soit aussi champion de bridge, ou de poker, ou d'ailleurs de risque. Parce que vous savez, une partie de risque, on la commence par exemple à 8h du soir, on la finit en fait 48 heures plus tard. Une partie de risque, c'est comme Colombo, ça prend son temps.
Alors cette série policière est en fait une série très sociale. Hein.
Ouh là là, absolument. Car mon ami est un super héros de la lutte des classes. C'est une sorte de moustique qui revient toujours agacer le meurtrier ou la meurtrière avec sa réplique culte. Il y a un petit détail qui me tracasse. Il incarne la victoire de l'intelligence sur l'argent. et le cynisme de ceux qui se pensent intouchables et en plus illusent la plupart du temps du propre narcissisme des puissants pour les mettre échec et mat. On rêve qu'un type pareil anime les débats des présidentielles. Alors oui, il y aura toujours des mauvais joueurs. Il y aura toujours le pote râleur, l'oncle colérique qui vous balance ses cartes à la figure ou qui renverse les pions sur le tapis du salon. Mais avec Colombo, à la fin de la partie, c'est tellement bien, c'est toujours le meilleur qui gagne.
L'ami du vendredi de Guillemette Odissino, Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, et puis c'est magnifique dans Colombo parce que en fait, plus on regarde d'épisodes, plus on peut voir les petits détails de variation des enquêtes. C'est pas du tout à chaque fois le même épisode, non. Mais c'est à chaque fois des petites variations qui font la différence.
Greg.
Oui, Colombo, c'est aussi un peu l'anti-héros, c'est-à-dire qu'on voit à chaque fois, il y avait Remington Steele aussi qui était en face, qui était le sublime détective milliardaire, et puis Colombo, lui, il était avec son impair complètement dégueulasse, avec sa tête un peu de travers, avec sa vieille voiture, avec son chien effectivement, et le type, on lui faisait pas quoi qu'il arrive, il savait exactement qui c'était et puis il l'expliquait avec la fameuse réplique de ma femme
et dans comme la
lignée,
ma femme.
Dans la lignée de la chronique de Guillemette Odissino, je vous recommande vraiment un très bel essai qui s'appelle Colombo, la lutte des classes. Ce soir à la télé de Lilian Thomas et c'est chez Textuel et votre chronique, elle est à podcaster sur l'appli France Inter. Tout au long de la semaine, l'émission a été préparée par Alexia Rivière et Camille Poux-Jalagui avec l'aide d'Alice Galtier. La réalisation était signée Théo Raison, la programmation musicale Valentine Chedebois, la technique cette semaine à la Maison de la Radio, Anne-Laure Cochet et Elisabeth Collet. Dans un instant, les meilleurs jeux à partager entre amis ou en famille. 10h28, l'heure de danser sur du Daft Punk et du Pharrell Williams. Get Lucky.
Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Daft Punk et Pharrell Williams interprétés Get Lucky.
S'il te plaît, les échecs demandent beaucoup de concentration.
Grand bien vous fasse.
Ça, on joue pas aux petits chevaux là, là c'est la cour des grands.
Ali Rebéi.
Faut arriver en fait à piquer les jetons de l'autre, tu vois, tout en déjouant sa tactique. C'est tout un art, faut pas faire n'importe quoi.
Sur France Inter.
Échec et mat.
10h30, Grand bien vous fasse loisir en direct et en public du Festival des Jeux de Cannes. Alors avec nous, Cynthia Rebeyrac, vous êtes la commissaire générale de ce festival. Vous avez décerné hier soir l'As d'or jeu de l'année. Qui a remporté l'As d'or? Expliquez peut-être, qu'est-ce que l'As d'or? Et pourquoi c'est un label de qualité ?
L'Asdor Jeu de l'année est le label de référence du marché du jeu de société. Il a été créé à Cannes en 1988 et nous avons remis hier soir, lors de la 36e édition de l'Asdor, eh bien, le prix du public, donc Asdor à Seven Wonders Architects. Donc, c'est un jeu qui a été créé par Antoine Boza. C'est un jeu de cartes et de ressources assez simple, parce qu'il est accessible au plus grand nombre. Et les sept merveilles du monde sont mises à l'honneur.
Redonnez le titre.
Seven Wonders Architects.
Et nous avons avec nous le gagnant, Antoine Boza. Bienvenue, vous avez créé ce jeu. De quelle façon ? Racontez-nous un peu la genèse de ce jeu.
Alors le jeu est vraiment parti de la volonté de faire jouer un maximum de gens justement. Maintenant moi j'ai un enfant, je joue beaucoup avec mes parents qui sont plutôt jeunes aussi et donc qui ont plus de bons yeux, qui ont besoin d'avoir du matériel où il n'y a pas du texte en tout petit. Donc l'idée c'était vraiment de créer un jeu sur un thème qui est universel, donc les merveilles du monde antique, qu'on puisse jouer à beaucoup. C'est un jeu qui joue de 2 à 7, où on attend très peu son tour parce que les gens d'aujourd'hui ils veulent plus attendre quand ils jouent, ils veulent avoir que du plaisir et pas de l'attente. Et on peut, voilà, c'est un jeu très accessible où il y a une double page de règles et à peu près tout le monde peut jouer. Même si vous avez jamais fait un jeu de société ou uniquement du barbu, comme on a cité plus tôt, on peut normalement arriver à jouer et se débrouiller avec ce jeu.
Seven Wonders Architect. Pourquoi ce jeu a-t-il remporté l'As d'or, Cynthia Robérac?
Eh bien, parce qu'aujourd'hui, le jury cherche à promouvoir un jeu où les mécaniques sont parfaites, des règles sans faille, un super graphisme. Et il est important pour que le grand public puisse s'y retrouver compte tenu du nombre de jeux qui sortent chaque année. Eh bien aujourd'hui, Seven Wonders Architects représente au mieux les jeux du moment.
Guillemette Audicino.
Est-ce que je peux vous demander, cher gagnant, combien de temps dure une partie ?
C'est une vingtaine de minutes. Alors, on va dire une demi-heure la première parce qu'on découvre les règles et après ça se joue en une vingtaine de minutes.
Mais c'est top ça aussi. Non mais il y a plein de qualités dans ce que vous venez de dire.
Les durées de jeu ont plutôt baissé.
Les enfants vont pas s'impatienter, les grands-parents vont pouvoir lire, ça dure pas trop longtemps. Non mais tout m'a l'air parfait.
On refait une partie donc ça dure longtemps.
Et on va enfin se ressouvenir quelles sont les merveilles du monde parce qu'on en oublie toujours une au passage.
C'est vrai.
Martin Winberg de la chaîne Un Monde de Jeux.
Oui, ça fait partie des jeux maintenant qui permettent d'initier énormément de monde. On a parlé des jeux de cartes tout à l'heure, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs qui font de plus en plus qui connaissaient la belote, qui connaissaient le barbu, et qui ont peur parfois d'aller vers le jeu moderne. Ça en fait partie, c'est aussi un jeu de cartes, hein, Seven Wonders Architect, puisque c'est un jeu dans lequel on va juste récupérer des cartes. C'est un peu plus que ça, on a du matériel devant nous, mais le matériau de base, ce sont des cartes. Les joueurs qui ont l'habitude de faire des jeux aussi simples que ça peuvent y aller. Ils peuvent demander à leur vendeur spécialisé de cette boîte-là. Ils n'auront aucun problème à y jouer. C'est même plus simple.
Et voilà un bon conseil de jeu pour ce week-end. Qui a remporté l'As d'or enfant, Cynthia Robérac?
Eh bien, Bubble Stories a remporté l'As d'or enfant. Ensuite, nous avons une nouvelle catégorie qui est la catégorie initiée puisqu'il était...
C'est quoi ça?
Alors, c'est... La catégorie initiée, c'est pour un public qui est averti, qui n'est pas encore expert, mais qui a envie d'avoir des règles un petit peu plus fouillées. Donc là, c'est Living Forest qui a remporté l'As d'or dans cette catégorie. Et ensuite, bien sûr, la catégorie expert. Donc là, on est sur des gros joueurs, des gamers. Et là, donc, c'est Dune Imperium qui a remporté le prix.
Quel est le jeu qui vous a le plus bluffé ces derniers temps, Maxime Dan, animateur sur le stream.fr?
Oui, pour le coup, animateur et aussi membre du jury des As d'or, donc j'ai passé un peu de temps sur tous ces jeux-là. Et effectivement, mon profil est plutôt orienté vers les jeux initiés experts, et c'est vrai que Dune m'a énormément plu. C'est vraiment un jeu qui va mêler de la pose d'ouvrier, effectivement, une certaine gestion de cartes aussi. Et en fait, ce que je résumerai pour définir un peu la complexité des jeux, c'est un peu le nombre de choix qu'on a à sa disposition. Là où un jeu comme Seven Wonders Architect va limiter le nombre de choix possibles et rendre du coup le jeu accessible, un jeu comme Dune Imperium va multiplier le nombre de choix possibles. Et là, c'est à vous du coup de résoudre ce problème, de se dire, ok, avec la situation donnée, quel est le meilleur choix possible au moment où je dois jouer mon tour.
Et vous, Mathieu Rivero de Ludovox, quel est le jeu qui vous a le plus impressionné ces derniers temps ?
Alors, je vais vous parler d'un tout petit jeu qui s'appelle Mot Malin, qui est un jeu avec des mots. On en parlait un petit peu plus tôt. Et donc, Mot Malin, c'est un jeu coopératif dans lequel tous les joueurs, ensemble, vont essayer de placer des cartes coordonnées sur une grille. Et chaque coordonnée, A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5, sont associées à un mot. Et il va falloir faire deviner sa carte coordonnée. Si j'ai la carte A4, que A est associée à tortue et... 4 est associé à Ninja, par exemple. Ça fait Tortue Ninja. Je vais peut-être dire pizza, parce que ben, les Tortues Ninja mangent des pizzas.
Mais c'est pyramide, ce truc.
Mais le truc, c'est qu'il va falloir le faire en temps réel, avec un sablier.
Mais ça ressemble, enfin, c'est frais. Des associations d'idées un peu bizarres.
Merci beaucoup, en tout cas, Antoine Boza, pour votre jeu. Rappelez le titre.
Seven Wonders Architect.
Merci beaucoup. Et nous accueillons Thomas Laurent. Bienvenue, Thomas Laurent. Vous êtes le Bonjour. Co-créateur du jeu, le Promino, c'est ça?
Exactement ça.
Racontez-nous le principe du Promino que j'ai entre les mains.
Exactement. Alors, c'est un jeu en bois qui comporte 24 pièces différentes, qui sont des pièces en trois dimensions en relief. Il va y avoir trois jeux possibles avec ça, avec le même set de 24 pièces. Un premier jeu de rapidité afin d'emboîter tous les Promino pour faire la tour Promino. Un jeu de stratégie où on va les positionner en domino les uns à côté des autres et il va falloir battre son adversaire. Et enfin, un jeu d'équilibre, plutôt fun, où on va monter, empiler tous les Promino les uns sur les autres.
Et on peut y jouer à partir de quel âge?
Alors, on va dire de 5 à 77, voire plus.
Guillemette, hein, tenez, c'est... je vous donne le Promino.
C'est pour les pros et les minots.
Merci beaucoup Thomas Laurent de nous avoir présenté votre jeu. Et nous accueillons Frédéric Sérène. Bienvenue Frédéric Sérène.
Bonjour.
Vous venez nous présenter un jeu que Thibaut de Saint-Maurice et Guillemette Audicino adorent, qui s'appelle Défi Nature. Et c'est édité par Bioviva. Racontez-nous ce jeu Défi Nature.
Alors les Défi Nature, c'est une collection, c'est un vrai phénomène de cours de récré.
Ah là là.
Beaucoup d'enfants connaissent cette collection. Le principe est ultra simple. On parie sur la caractéristique de la carte, sur ses animaux, pour emporter la carte de l'adversaire, tout en se sensibilisant et en découvrant les espèces menacées. Donc c'est un principe simple qui est devenu réellement un vrai phénomène de cours de récré.
Vous voulez y jouer là rapidement avec Thibaut
Volontiers,
et Guillemette, allez-y.
C'est devenu aussi un phénomène de commande à Noël. Hein.
Ouais.
C'est-à-dire, il me manque ce défi nature, je veux ce défi nature.
Allez, on va jouer.
Alors, ma famille, c'est comme ça.
Donc là, on est sur un défi nature avec des animaux marins un peu extraordinaires. Moi, j'ai une carte requin léopard. Donc, moi, quand je joue avec les enfants, je les oblige à lire d'abord avant de jouer parce que sinon, on fait que des chiffres et des numéros. Bon, là, je vais pas vous lire, mais bon, c'est un requin léopard. Et donc, la période de gestion ou d'incubation, le requin léopard, c'est 194 jours.
Oui, et?
Et toi?
Ah ben, moi, si tu veux, j'ai un rouge-gorge devant moi. Donc... moi, j'ai une carte rouge-gorge pour ma part. Donc, son poids, c'est 10 grammes, si tu veux l'info.
Ok, et en gestion ou incubation, t'es à combien?
Et en gestion ou incubation, ben ouais, je suis à 13 jours.
13 jours, ah ben 194,
et
j'ai
voilà,
gagné.
C'est ça. Allez,
hop, bravo.
Voilà,
merci.
Bravo, et donc ça s'appelle Défi Nature. Et il y a une édition Nouvelle-Calédonie, c'est ça?
Oui, il y a 50 thématiques, et là, c'est Nouvelle-Calédonie.
Merci beaucoup, Frédéric Sérène, de nous avoir présenté Défi Nature. Tiens, quels sont les critères d'un bon jeu, Mathieu Rivero? C'est quoi un bon jeu?
C'est fun, tout simplement. En fait, un bon jeu, c'est un jeu qui présente des choix intéressants pour le joueur, qui effectivement le limite dans ses choix, comme disait Maxildan un petit peu plus tôt, mais en même temps qui arrive à le récompenser et à récompenser tous les joueurs autour de la table pour leur faire vivre une belle expérience. Ça paraît simple dit comme ça, c'est très compliqué en pratique, et il est souvent compliqué de faire des jeux très simples parce que justement on est obligé de limiter ses choix.
Martin Wittberg, vous acquiescez?
Ouais, bah nous qui faisons de la critique, on fait de la critique aussi bien sur Ludovox que sur Un Monde de Jeux, on a beaucoup de mal à passer des avis. Est-ce que ce jeu est bon? Est-ce que ce jeu est moins bon? Parce qu'il y a des profils de joueurs qui sont très différents. Donc souvent, ce que l'on fait, c'est qu'on parle de nos goûts personnels. On raconte comment on a aimé un jeu, comment on s'est impliqué, les émotions qu'on a ressenties. Et le jeu de société, c'est un peu ça. C'est tout un panel d'émotions différentes.
Maxildan.
Ouais, j'ajouterais à ça qu'en fait, vous demandiez tout à l'heure comment on a découvert le jeu. Et Cynthia expliquait qu'il y avait de plus en plus de joueurs. J'irais même jusqu'à dire qu'en fait, effectivement, tout le monde est joueur, et que si vous n'êtes pas joueur aujourd'hui, c'est probablement parce qu'on vous a juste pas encore présenté
le jeu
qui est fait pour vous. Aujourd'hui, il existe vraiment des jeux pour tout le monde. Il faut juste trouver celui qui va vous parler. C'est pas forcément un jeu de gestion, c'est pas forcément un jeu d'ambiance. Ça peut être un jeu narratif, un jeu d'enquête ou autre. il faut s'y intéresser, il y a forcément un jeu qui est fait pour vous.
Moi j'aime par exemple les jeux qui révèlent la nature humaine des autres joueurs. Qu'est-ce que vous pourriez me conseiller par exemple?
Il y en a beaucoup hein.
Ah, il y en a un très bien. Dans la sélection de l'année dernière, il y avait Top 10. Et ouais. C'est un jeu dans lequel il faut classer des choses. Alors ça peut être des choses complètement différentes, par exemple une peur, un sentiment, mais on a
ça,
un numéro.
Bien. Ça me plaît, c'est très
on a un numéro
face.
En début de partie qui est de 1 à 10 et il faut qu'on l'interprète et que les gens devinent notre numéro en nous reclassant après. Donc on va jouer, mais on va jouer dans un sens qui est plus celui d'un acteur d'une certaine manière, et ce sont encore d'autres émotions.
Mais tiens, Louisette nous a envoyé un mail, elle nous dit: pourriez-vous nous proposer des jeux de société? Il y a tellement de choix en magasin qu'il est très difficile de choisir. Alors pour Louisette, alors je ne sais pas quel est son profil de jeu, mais peut-être un jeu très généraliste, un peu nouveau, Martin Wittberg ou Maxime Dan?
Seven Wonders Architect, ouais. Connaissez-vous l'Asdor? Non, en vrai, l'Asdor c'est aussi ça, hein. C'est aussi un guide d'achat qui permet à des gens qui peut-être s'intéressent moins ou pas encore à ce domaine d'être guidés. Mais finalement, si vous vous posez ce genre de questions, vraiment poussez la porte des magasins spécialisés dans la vente de jeux de société. Les vendeurs sont très compétents et sauront vous diriger vers le jeu qui est fait pour vous. C'est très compliqué de conseiller un jeu pour tout le monde. Il faut vraiment s'attarder sur ce qui va vous plaire, quel est votre budget, à combien de joueurs vous allez jouer, quel âge vous avez. Et il y en a pour tous les goûts, donc il va falloir répondre un peu à toutes ces questions-là.
Mais c'est pour ça que des jeux comme le Monopoly, le Scrabble, Blanc, Manger, Coco, le Uno, etc. connaissent un grand succès, parce que ce sont des jeux fédérateurs, quel que soit son profil, Cynthia Robérac.
Oui, et pas que, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le Monopoly, le Uno, comme vous l'avez dit, ce sont des jeux que l'on va retrouver en grande surface.
Oui, c'est ça.
Et à l'instar du livre, on va avoir des livres que l'on retrouve dans des magasins alimentaires, puis dans des boutiques GSS, les grandes surfaces spécialisées, et dans les petites boutiques de quartier. Et on n'est jamais aussi bien conseillé sur nos attentes que dans des boutiques hyper spécialisées. Donc par exemple, comme le disait Max, eh bien la boutique hyper spécialisée aujourd'hui est le lieu où une personne qui ne sait pas à quoi jouer a intérêt à fréquenter afin de savoir quel jeu est fait pour elle.
Et nous avons avec nous Alexandre Gélonec. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'entreprise Bleu Blurs Factory.
Exactement.
Quel est votre jeu que j'ai sous les yeux, qui est très visuellement très joli, très rigolo?
Très coloré.
C'est un jeu de cartes, très coloré. Alors expliquez-nous un peu ce jeu, Bleu Blurs.
Alors en gros, du coup, nous, on a voulu sortir un jeu très simple à mettre en place et rapide pour que les gens puissent commencer à faire des parties rapidement quand ils se retrouvent entre amis, etc. C'est un jeu qui se joue à partir de 6 ans et en gros, vous avez des formes avec des couleurs et des formes différentes. Le but du jeu, il est très simple, c'est de taper dès qu'il y a une même forme ou une même couleur qui se superpose, et vous gagnez en même temps des petites cartes spéciales. Et ces petites cartes spéciales, elles sont dotées de super pouvoirs. Donc vous avez des plus 10 cartes pour telle personne, devine la couleur de la prochaine carte et tu remportes la pile, etc. C'est un jeu vraiment hyper ludique qu'on a voulu faire très accessible.
À partir de quel âge?
À partir de 6 ans.
De 6 ans, hein,
exactement.
C'est ça.
Et pas de limite d'âge après au-dessus, évidemment.
Et Guillemette Odissino me l'a piqué, là.
Ouais, ça a l'air bien. Je suis en train de regarder combien il y a de formes roses, combien de formes jaunes.
Elle est en train de tout calculer.
On le trouve partout? On le trouve facilement?
On le trouve facilement. Nous, on s'auto-distribue. On s'est auto-édité aussi. Donc, on a fait le tour de France de tous les magasins de jeux de société. On a été vendre notre jeu un petit peu partout. On est disponible dans 55 magasins en France. Donc, du nord au sud, de l'est en ouest. Et on a aussi un petit distributeur en Belgique. Donc du coup voilà.
Redites le nom de votre jeu parce que moi je suis
les
très mauvais.
Les Bleu Blurs.
Les Bleu Blurs.
Exactement.
Merci beaucoup Merci Alexandre Gélonec d'avoir Merci. Participé à Grand Main vous face. Alors Martin Wittberg, sur votre blog Un Monde de Jeux, moi j'ai repéré un jeu qui me donne très envie, ça s'appelle Tokaido. Oui. C'est une belle invitation au voyage accessible dès l'âge de 8 ans, Tokaido.
Et c'est un jeu d'Antoine Boza aussi, on vient de le recevoir pour parler de son Asdor. Et Tokaido, c'est un jeu qui date un petit peu maintenant, il a une dizaine d'années si je ne me trompe pas. Ouais. Et on fait juste un petit voyage initiatique au Japon, on se promène, on regarde des paysages. C'est ce qui le rend aussi très très accessible, la règle est ultra simple. On va récupérer des cartes, on va les garder et le thème du voyage est très très important.
Allez, il est 10h45 et l'heure de retrouver la chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne. Jamais.
Alors, une chronique qui va beaucoup intéresser notre ami Grégory Cohen. Hein. Vous vous intéressez à une catégorie de joueurs qu'on appelle les tricheurs.
Bah oui, Ali, hein, c'est aussi une petite spéciale dédicace à Grégory, grand tricheur devant l'éternel. Alors, dès lors qu'il y a un jeu, des règles et plusieurs joueurs, la possibilité qu'il y ait de la triche est là aussi. La triche, c'est la doublure du jeu, son envers, son ombre. Et pour qui aime jouer, pour qui joue beaucoup la triche, eh ben, c'est à la fois un scandale et un défi. Un scandale parce que le tricheur trahit le pacte de confiance qui se noue dès lors que l'on se met à jouer ensemble. Et puis un défi aussi pour les tricheurs de ne pas se faire prendre et pour les autres joueurs de ne pas se faire piéger. Alors vous connaissez hein, toutes et tous le proverbe « tricher n'est pas jouer », mais est-ce que c'est aussi simple que ça ? Question, au contraire, est-ce que le tricheur n'est pas un joueur encore plus engagé que les autres ? Si les jeux sont si importants pour le développement des enfants, pour l'éducation des adultes et pour toutes ces relations qu'on vient de décrire, n'est-ce pas parce qu'ils nous apprennent à vivre et à vivre ensemble ? Alors dans ce cas, puisque la triche, le mensonge et la dissimulation ou la manipulation font partie de la vie, est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait aussi des tricheurs autour de la table pour que le jeu soit sérieux ?
Mais Thibault, vous ne pouvez tout de même pas décemment faire l'éloge de la triche.
Alors l'éloge, peut-être pas, ou alors un éloge paradoxal, mais on peut simplement prendre le temps de considérer la complexité de la triche. Le tricheur, c'est pas la même chose qu'un mauvais joueur. Il ne veut pas que le jeu s'arrête. Au contraire, il a tout intérêt à ce que le jeu continue jusqu'à ce que sa victoire soit éclatante. En fait, le tricheur, il joue deux fois. Il joue le jeu auquel il participe et il joue avec les règles de ce jeu. Et c'est sa manière de prendre le jeu au sérieux. Alors certes, il va piquer quelques billets dans la banque du Monopoly ou piocher en choisissant les lettres au Scrabble, en soulevant un peu plus le sac hein, pour avoir les bonnes lettres. Ou alors il va inventer des combines un peu plus alambiquées. Ça lui donne un avantage, c'est certain, mais ça témoigne d'une certaine intelligence du jeu. Et ça implique aussi de ne pas se faire prendre, de savoir faire semblant, d'anticiper les réactions des uns et des autres, de mettre au point toute une stratégie. La triche, ça implique donc le développement de tout un ensemble de compétences cognitives et de compétences sociales. Mais comme l'explique Nietzsche à propos du mensonge, les hommes ne fuient pas tellement le fait d'être trompés que le fait de subir un dommage par la tromperie. Ce qui nous paraît donc moralement condamnable dans la triche, c'est pas la triche elle-même, mais c'est les conséquences de la triche, le fait d'avoir été manipulé, le fait que le jeu n'ait pas été égal, le fait que la victoire ait été volée. Mais la tricherie en elle-même, elle n'est pas condamnée. Et elle peut même devenir positive. Quand Grégory Cohen, par exemple, triche pour faire gagner ses enfants, c'est positif. Ou même, plus largement, la politesse, c'est une tricherie sociale. Le théâtre ou le cinéma, ce sont des tricheries artistiques. Et jusqu'à la séduction, qui implique une certaine tricherie avec la réalité pour se présenter sous son meilleur jour. La tricherie comme production d'une illusion n'est donc pas mauvaise en soi. Il y a des bonnes tricheries et des mauvaises tricheries en fonction de leurs conséquences, parce que, comme le pense Nietzsche, nous avons un rapport intéressé à la vérité, au réel, comme aux règles des jeux auxquels nous jouons. Voilà, le fait que la triche soit toujours possible doit donc aussi nous apprendre en retour à ne pas être trop crédules, à ne pas confondre confiance et crédulité, à ne pas considérer que l'accord sur des règles suffit. À développer son attention à la manière de jouer des autres et à rester sur le qui-vive pour débusquer une éventuelle tricherie. Bref, la triche, c'est une invitation à jouer encore plus sérieusement.
Petite précision à propos de notre chef Grégory Cohen. Nous avons un jour, à Grand Bien Vous Fasse, joué au jeu, au Molki, un jeu de qui finlandais. Et Monsieur Cohen a abondamment triché, mais c'était pour la bonne cause. C'était pour faire gagner ses enfants.
Je peux juste très rapidement. En fait, je jouais effectivement contre des adultes avec un enfant de 2 ans et une petite fille de 6 ans. Et à un moment, j'ai trouvé ça drôle de demander à mon fils de 2 ans de tenir le score, ce qui fait qu'il donnait des chiffres complètement ahurissants. Et donc, on a gagné.
Guillemette Odissino.
Mais je suis tellement d'accord avec la chronique de Thibault, parce que c'est vrai que quand on joue. La seule chose qui compte, c'est que le jeu continue, que ce plaisir de jouer continue. Et je préfère mais 1000 fois un tricheur à un mauvais joueur qui va rendre la chose agressive, qui va vous savonner la planche, qui va bouder, qui va se lever tout le temps. Tant pis si quelqu'un triche parce qu'il est là, il est autour du jeu avec moi.
Le regard de nos experts, Mathieu Rivero.
Alors je vais vous parler d'un phénomène connexe. Il y a des jeux coopératifs, ça fait longtemps qu'on parle de jeux coopératifs dans lesquels on collabore tous ensemble pour réussir contre le jeu. Et il arrive que les joueurs se sentent floués par le jeu. On sent que, à la fin, c'est un peu injuste qu'on ait perdu. Et on décide ensemble qu'on passe cet obstacle. On y est arrivé. Parce qu'on est investi. Et on sent que, finalement, l'enjeu vaut notre réussite.
Martin Wittberg.
Et nous, on fait quelque chose d'un peu particulier, nous deux d'ailleurs, c'est qu'on fait du jeu de société en vidéo, on se filme, on a une chaîne YouTube. Et nos triches, on les voit. Alors, c'est des triches qui ne sont pas toujours volontaires, mais on les voit à l'image. Les gens nous les signalent. On finit par se donner des gages dans les émissions suivantes parce qu'à chaque fois, il y a des petites erreurs qui se glissent dans nos vidéos.
Maxime Dan.
Oui, petite précision, si vous aimez tricher, il y a aussi des jeux qui autorisent la triche. Je pense à Munchkin, par exemple.
Redonnez
qui vous invite. Munchkin, c'est un vieux jeu maintenant qui vous autorise à tricher. Mytho aussi, qui est tout à fait fait pour ça.
Comme son nom l'indique.
Le but, ça va être de cacher, c'est de plus avoir de cartes. Donc, vous allez essayer de les jeter par-dessus votre épaule, les cacher dans vos cheveux ou les mettre sous votre chaise. On peut tout faire tant qu'on n'est pas vu.
Moi, je vais jouer au Mytho avec Grégory Cohen.
je voulais juste apporter une petite précision, Thibaut, à ta chronique. Il y a quelque chose que tu as omis et pourtant, il y en a pas mal autour de la table, c'est ce qu'on appelle les mauvais perdants. Ceux qui vont trouver chez le vainqueur, évidemment, un tricheur. Et désolé, je pense qu'ils se reconnaissent.
Oui,
Mytho, je voudrais signaler quand même, c'est un jeu qui a été créé par des enfants. Ah, c'est assez extraordinaire. Et là, on voit que les enfants aiment bien tricher et qu'ils l'ont reporté dans leur jeu.
La chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice a podcasté sur l'appli France Inter. Juste après Clara Luciani, Amour Toujours, la recette de Grégory Cohen sans triche à déguster autour d'une soirée jeu. Clara Luciani interprétait Amour Toujours.
grand bien vous fasse. Ali Rebi sur France Inter.
Et nous sommes toujours en direct du Festival International des Jeux de Cannes. Et nous attendons avec impatience la recette de notre chef Grégory Cohen à partager ce week-end. Et vous avez choisi une pissaladière.
Alors une pissaladière. Alors vous savez Ali, quand on commence à s'attaquer à ce genre de recette, on peut avoir beaucoup de mails. C'est comme la salade niçoise, c'est comme toutes ces choses-là.
Pas voilà. Besoin d'avoir des mails. Oui, je suis niçoise. Hein. Voilà, donc si tu veux, elle est en face de toi là.
C'est parti, c'est parti.
Alors ça vas-y.
Alors ma recette donc de pissaladière, dès qu'on met ma devant, et ben du coup son sauteur à peu près tout. Alors c'est une pâte à pain ou à pizza, une compotée d'oignons, des anchois, des olives noires, de l'herbe de Provence évidemment, des herbes de Provence. Alors pour la pâte à pizza, on va faire une pâte à pizza sans repos qui va aller donc plus vite. C'est 300 g de farine, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, une bonne pincée de sel, un sachet de levure de boulangerie, 15 centilitres d'eau tiède, une cuillère à café de sucre et de sel et une cuillère à soupe d'herbe de Provence. Dans un grand bol, on va verser la farine, l'huile d'olive, on va mélanger à la main ou avec un robot, hein, c'est selon, il n'y a pas de règle en particulier. Et puis dans un petit bol à part, on va diluer la levure, le sucre, le sel, un peu d'eau tiède, ça va activer la levure. On va mélanger le tout jusqu'à obtention d'une pâte homogène, on ajoute le sel, la levure, etc. Et puis on va former une belle boule, on la farine, on la dépose dans un récipient, on la couvre avec un torchon propre. On préchauffe son four à 220 degrés à chaleur tournante et puis pendant ce temps-là, on va prendre 1 kg d'oignons jaunes émincés, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une branche de romarin et de thym, une cuillère à café de sucre roux, ça c'est mon petit additif, c'est pour qu'on ait une caramélisation un peu plus sympathique, une cuillère à soupe de crème d'anchois, mais on peut s'en passer, après on ne se passe pas des anchois, il nous en faudra 15, et une quinzaine d'olives noires de Nice, idéalement, c'est la ville d'à côté de Cannes, mais ils sont pas très copains, de temps en temps, ils se chamaillent, mais c'est un peu le même endroit. Verser dans un faitout l'huile d'olive, les oignons, le thym, le romarin, et on fait compoter à feu doux pendant 30 minutes environ. Les oignons ils vont lâcher leur eau, réduire énormément, on rajoute du sucre, on laisse compoter 10 minutes supplémentaires pour obtenir une petite caramélisation. On retire du feu, on incorpore la pâte d'anchois et on laisse refroidir. Pendant ce temps-là, on étale la pâte sur un plan de travail fariné pour pas qu'elle colle. On lui donne la taille et la forme qu'on veut. Alors généralement, c'est plutôt carré ou rectangulaire, une pissaladière. Mais si on est d'humeur romantique, on peut faire un petit cœur, c'est mignon aussi. On va ensuite étaler la compotée d'oignons sur la pâte, retirer l'excédent d'huile des anchois, les sécher sur un papier absorbant, disposer sur les oignons, parsemé d'huile d'olive. Et on enfourne à 220 degrés pendant 10 à 15 minutes. Alors c'est à surveiller en fonction de la puissance du four. Et on se retrouve avec une sublime pissaladière. C'est bon, c'est doux, c'est fondant. Il y a le côté un petit peu salé des anchois, les olives qui viennent. Bref, on est déjà en Provence. Guillemette. Est-ce que je suis bon, Guillemette, excuse-moi.
Alors écoute, tu es épaté, tu es absolument bon. Mais je tiens effectivement à dire aux auditeurs et aux auditrices des olives de Nice. C'est vraiment important. Si vous mettez des grosses olives là qu'on achète, qui sont dans du vieux liquide là, ça n'a pas du tout le même effet. La petite olive de Nice.
La recette de Grégory Cohen a retrouvé sur son compte Instagram, Grégory Cohen off off avec
deux F.
Une pissaladière et des jeux, Cynthia Rebérac, on est bien. Hein
on est parfait pour ce week-end à Cannes.
Merci à vous, hein, Cynthia Rebérac, de nous avoir accueillis ici à Nice pour ce festival
à Cannes.
Oh là là. Et c'était pour savoir si vous suiviez. À Cannes, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous. Merci à tous, merci au public présent, merci aux formidables équipes techniques et de production sur place, merci à Alain Fauché, le grand ordonnateur de ce déplacement, à Thierry Hébert, à Sarah Stark de France Bleu, Azur, merci à Rémi Martinez et Corentin Bailly. Permettez-moi un salut très amical à notre directrice Laurence Bloch qui a annoncé cette semaine son départ de France Inter après la grille d'été. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 9h30 sur France 2 dans l'émission Bel et Bien avec Agathe Le Caron, Christophe André et André Manoukian. Lundi dans Grand Bien vous fasse, que vaut le Nutri-Score. Belle journée à l'écoute de France Inter.